Radio Barque, notre troisième partie pour cette 25e, c'est, comme je le disais tout à l'heure, notre invitée Isabelle Herp. Vous faites partie, Isabelle Herp, des vice-présidents ou vice-présidentes, assez nombreux au Grand Narbonne, qui chacun ont des délégations très précises, des secteurs de responsabilité.
Oui. Donc, nous sommes 15 vice-présidents au Grand Narbonne.
Voilà, donc ça fait 15.
37
ça fait,
communes.
Pour 37 communes et pour un certain nombre de secteurs, parce que parfois vous en avez deux. Exemple, vous, c'est la politique de l'habitat, notamment le logement social, les HLM, etc.
Oui.
Mais également la transition énergétique, c'est-à-dire une partie de l'écologie.
C'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un lien également entre l'habitat et la transition énergétique à travers toute la politique de rénovation énergétique.
Voilà. Alors, tout d'abord, la politique de l'habitat. On était habitué pendant des décennies à avoir, par exemple, des HLM municipaux. Mm-hmm. Aujourd'hui, le logement social, c'est l'agglomération qui gère ça.
Tout à fait. Quand l'agglomération a été créée en 2003, un certain nombre de compétences sont venues sur l'agglomération. Et avec les compétences, les bâtiments associés. Donc effectivement, par exemple, l'office municipal HLM a été transféré à l'agglomération. C'est maintenant Domicile Habitat qui est un des bailleurs sociaux avec lesquels nous travaillons.
Oui, alors soulignons-le bien là encore, Domicile Habitat, c'est l'équivalent de l'office des HLM.
Tout à fait. Hein, Domicile Habitat et l'office public HLM du Grand Narbonne.
Alors qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien?
Ah, dans le quotidien,
Pas grand-chose pour les locataires.
Non, pas grand-chose pour les locataires. Enfin, si ce n'est que sur Domicile Habitat, par exemple, on a récupéré un parc de logements locatifs sociaux, vous le savez, qui n'avait pas été entretenu pendant de nombreuses années, et que donc on a fait un gros effort de rénovation et de réhabilitation du parc, avec de gros financements de l'agglomération, notamment. Ce qui est intéressant dans la politique de l'habitat, et l'habitat, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous structure, c'est ce qui structure la famille, c'est ce qui structure le quartier, la ville, le territoire. Ce qui est intéressant dans la politique de l'habitat, c'est que c'est une stratégie globale d'aménagement du territoire et de gestion urbaine. Quand on travaille sur la thématique de l'habitat, on travaille aussi sur les projets en lien avec le développement économique et on travaille sur toutes les logiques liées à la mobilité, liées au transport. L'habitat, je le disais tout à l'heure, est au cœur des défis environnementaux et il est également au cœur des enjeux sociaux, à travers notamment le travail qu'on mène avec la politique de la ville. Donc l'habitat, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une politique transversale.
Oui, et puis évidemment, quand on descend au fond du problème, l'habitat, c'est le logement pour les gens qui n'en ont pas, notamment l'habitat social. Alors, jadis, c'était géré au niveau municipal.
Oui.
On s'est aperçu à l'usage que la plupart des logements étaient sur les villes, et notamment ici sur Narbonne.
Oui.
Beaucoup de communes n'en avaient pas. La loi, à un moment, a imposé certains quotas, ce qui pose alors quand même un certain nombre de problèmes de réalisation.
Alors, pour vous donner un chiffre, 8000 logements locatifs sociaux sur le Grand Narbonne, un peu plus de 8000, donc un peu plus de 6000 logements locatifs sociaux sur la ville de Narbonne. Ça veut dire que 80% du parc, effectivement, est concentré sur la ville de Narbonne. Du fait, d'une part, parce que le HLM était municipal, et parce que la demande aussi de nos citoyens est sur Narbonne. Voilà. Donc, effectivement, nous, on a un plan local de l'habitat, qu'on a travaillé en partenariat avec l'ensemble des partenaires institutionnels, les partenaires sociaux, les habitants et les citoyens. Et qui définit notamment un certain nombre d'orientations, dont la plus grande répartition des logements sur l'ensemble du territoire, pour essayer effectivement qu'il y ait une plus grande diversité de logements sur les 37 communes du territoire de Narbonne.
Alors ça, d'une part, il y a la volonté, bien entendu, votre volonté notamment, mais il y a aussi une loi qui est sortie...
La loi SRU, vous parlez.
SRU, oui. Qui oblige un certain nombre de communes à partir d'un certain nombre d'habitants à avoir un quota.
Tout
je crois que c'est 20%.
C'est ça. Il y a 7 communes sur le Grand Narbonne qui sont soumises à la loi SRU et qui donc doivent atteindre effectivement un quota de 20% de logements locatifs sociaux.
Or, souvent, elles en avaient très peu, ces communes.
Exactement. La ville de Narbonne donc atteint le quota et le dépasse.
L'a dépassé depuis fort longtemps.
On est à 23%. La ville de Port-la-Nouvelle est très proche du quota avec 18%. Et après, on a un certain nombre de communes, dont Gruissant, Coursan, Fleury, Sigean, voilà, qui effectivement ont un pourcentage de logements locatifs sociaux relativement peu important. Et ça pose des problèmes parce que, d'abord, un problème de foncier, parce qu'on n'a pas toujours le foncier pour construire les logements. Et puis parce que fait rattraper le retard soumis par la loi SRU, ça poserait quand même des petits soucis d'équilibre dans la commune, parce qu'il faudrait construire un nombre très important de logements. Mais vous avez des communes qui commencent à rattraper, hein, Coursang a fait des programmes de logements locatifs sociaux, Gruissant a fait d'importants programmes de logements locatifs sociaux, et un très gros programme sur la Sagne qui va permettre de rattraper ce retard. Puisqu'effectivement, comme vous le dites, l'intérêt, c'est de pouvoir répondre à la besoin de l'ensemble des habitants du Grand Narbonne, les jeunes actifs, les familles monoparentales, les familles avec enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de fragilité.
Ça fait du monde, comme on
c'est
dit.
C'est ça, on est là pour répondre vraiment à la demande, sachant, vous le savez, que 80% de la population du Grand Narbonne est éligible au logement locatif
social. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'on a des ménages qui ont...
Oui, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne seront jamais satisfaits, parce que
forcément,
ne rêvons pas. 80%, on ne voit pas du jour au lendemain un parc qui couvrirait 80%, un parc de logement social.
On a un délai moyen d'attribution qui est de 10 mois et qui se raccourcit. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de personnes, je pense, qui sont éligibles au logement locatif social et qui ne font pas la demande parce qu'ils ne sont pas informés. Donc c'est à nous aussi, je pense, à communiquer sur le logement social et à donner une image peut-être un peu plus positive, parce que logement social, ça a quelquefois une connotation un peu péjorative. Mmh. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça favorise la mixité sociale. Hein. Mmh. Les enjeux de mixité sociale sont très, très importants et c'est vrai que ça participe.
Et alors, cette loi SRU qu'on a évoquée, que vous avez rappelée, Isabelle Herbe, on s'aperçoit qu'elle est difficilement applicable puisque certaines communes passent pratiquement de zéro. Il faudrait qu'elles atteignent rapidement 20%. Comment faire? C'est pas gérable.
Ah, c'est difficile. Nous, on les aide. Hein. On travaille, on a des outils pour les aider.
Mais est-ce qu'il y a un délai que cette commune doit respecter pour atteindre ce fameux quota de 20%?
Bien sûr, il y a un délai. Et d'ailleurs, l'État est vigilant et les communes peuvent être pénalisées, hein, financièrement.
Oui, financièrement.
Tout à fait, si elles n'atteignent pas leur quota.
Elles paient des amendes, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça, c'est ça. Elles paient des...
Et en plus, pardon Isabelle, mais le préfet maintenant, enfin le préfet du département, a le pouvoir de préemption. C'est-à-dire qu'il peut maintenant, sans aucune contrainte, lui-même préempter des terrains, effectivement, pour les attribuer à des programmes de logements sociaux. Une parenthèse quand même aussi, en fait, 80% de ménages qui pourraient, qui répondent aux critères pour obtenir prétendre en fait à un logement social. Tu fais observer qu'effectivement c'était une population considérable. Mais c'est vrai qu'en l'absence de logements sociaux, en fait, pas mal aussi, se retrouvent à louer des appartements dans des centres de ville, en fait, ou de village d'ailleurs, qui sont dans un état de vétusté. En fait, je n'ose même pas dire le nom, j'en connais quelques-uns.
Oui, c'est ce qu'on appelle les marchands de sommeil.
Les marchands de sommeil, qui sont rénovés de manière très, très, très rudimentaire, et ensuite, filer en location dans des conditions épouvantables. Donc là se pose le problème d'articulation entre une ville, effectivement, et une agglo.
Oui, voilà.
Qui va préempter, par exemple, je prends un exemple concret, place d'un quartier de bourg, qui ira préempter un immeuble qui est quasiment pourri, fait tout presque, par toute une série de raisons, pour l'attribuer, effectivement, pour en faire des logements sociaux. Maire.
Oui, la ville ou l'agglo.
Droit de préemption en matière de logement social, en fait, le droit de préemption d'immeubles privés, en fait, aujourd'hui, c'est pas la compétence de l'agglo.
Oui. Non, voilà. Mais on travaille bien sûr avec la ville sur cette thématique.
Donc nécessité effectivement d'une coopération très étroite effectivement avec la ville.
Oui, alors justement là, on met le doigt justement sur une certaine plaie, puisque Isabelle Herbe, vous le savez très bien comme beaucoup de gens, que les relations quotidiennes sont loin d'être faciles entre l'agglo et la ville de Narbonne, même si j'ai eu l'impression que vous ne souhaitiez pas vous immiscer tout à fait dans ce genre de problème-là, mais vous y êtes dedans, que vous le vouliez ou non.
Oui, effectivement. Je ne suis pas toujours d'accord avec les orientations en termes d'urbanisme et d'habitat qui sont proposées par la ville de Narbonne. Bon, sachant que le maire de Narbonne, aujourd'hui, ne veut plus de logements sociaux sur la ville. Hein, donc, mais quoi qu'il en soit...
Parce qu'il considère qu'il a dépassé
le quota.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux.
Mathématiquement.
Oui, mais en même temps, je le rappelle, il y a des logements de fêtes sociaux, quoi, en fait, hein, qui sont dans des immeubles privés, hein, et qui sont scandaleusement dans un état sanitaire, en fait, et urbain, si je puis dire, scandaleusement déprimé.
Ça, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Exactement. Et là, on travaille en étroit partenariat avec les services de la ville, services de l'agglomération et services de la ville, et les élus aussi, hein, on travaille ensemble. On a un programme qui s'appelle l'OPARU, l'opération de rénovation sur l'habitat donc privé, et l'agglomération et la ville abonde financièrement les travaux des particuliers et ça participe donc à l'amélioration du parc des anciens dans les villes.
Donc ce sont des programmes mixtes, ville et agglo.
C'est ça. On apporte...
Dans quelle proportion ?
Alors l'agglomération apporte 40% du financement, la ville apporte 15%, ce qui veut dire que le particulier peut avoir donc jusqu'à 55% de ses rénovations payées par l'agglomération et la ville pour la rénovation de son habitat et ensuite à remettre en location auprès des publics effectivement en difficulté du territoire. On a aussi une action façade qui fonctionne très bien sur le centre-ville de Narbonne, de Coursang et de Cuxac, mais surtout de Narbonne, qui permet aux particuliers de rénover leur façade avec donc les aides également de la ville et de l'agglomération.
Voilà, mais là, c'est uniquement pour les façades.
Là, c'est uniquement pour les façades, mais c'est pour, c'est important.
Oui, il y a le look, l'allure,
voilà.
L'aspect.
Disons que ça participe avec le programme OPARU à l'attractivité de nos centres-villes, et c'est très important parce que l'attractivité des centres-villes, ça participe aussi à l'attractivité des commerces, à l'activité économique en centre-ville, et on souhaite surtout ne pas dépeupler les centres-villes avec les problèmes d'insécurité, de paupérisation que ça entraîne derrière.
Alors donc aujourd'hui votre défi essentiel c'est alors d'une part de gérer ces répartitions entre les communes en application théorique, je dis bien théorique de la loi, et puis de construire des HLM sur la ville, dans une ville où le maire ne souhaite plus agrandir son parc. Comment arrivez-vous à vous y retrouver au milieu de ces contradictions-là?
Ah ben, on travaille ensemble, on est obligé de travailler ensemble. Si je vous donne un chiffre, depuis 2014, c'est quand même plus de 1300 logements locatifs sociaux qui ont été construits sur le territoire avec des aides financières d'environ 4,5 millions d'euros de l'agglomération. Donc, ce qui veut dire qu'on y arrive.
Alors, jadis, une des grandes spécificités, si je puis dire, du maire précédent, Hubert Mouly, pendant pas mal d'années, c'était de construire des HLM qui ressemblaient à des petits immeubles bourgeois, des petites unités.
Oui.
Est-ce que vous êtes toujours dans cette ligne-là ?
Ah ben, on attache une grosse importance, effectivement, à la qualité architecturale des bâtiments. Et souvent, d'ailleurs, les HLM et les bailleurs sociaux sont très innovants dans le domaine architectural et également, on va en parler tout à l'heure, dans le domaine de la transition énergétique, dans la rénovation énergétique des bâtiments. Et aujourd'hui, on peut dire que les expérimentations se font souvent à partir du logement locatif social.
Et sur des petites unités, justement, par rapport à ce qu'on avait fait dans les années 60-70, des horreurs tout le monde regrette aujourd'hui.
D'ailleurs. On a d'ailleurs, nous, un règlement d'intervention financier à l'agglomération qui prévoit des subventions aux bailleurs sociaux pour des programmes qui contiennent moins de 40 logements. Ce qui veut dire qu'au-delà de 40 logements, l'agglomération ne subventionne pas. Donc pour éviter effectivement ces grands ensembles dont vous parlez, où il est tout à fait impossible ensuite d'assurer une mixité sociale.
Alors à propos de bailleurs sociaux, c'est un mot que la plupart des gens peut-être ne comprennent pas tout à fait. Ce sont en fait les organismes qui détiennent des logements et qui les mettent à la disposition. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que Domicia Habitat, il y a plusieurs autres organismes.
Nous travaillons avec Habitat Audois, qui est le bailleur social
du département.
Nous travaillons avec Allogéa, dont je siège au conseil d'administration, et nous travaillons aussi avec Marco Habitat, qui travaille beaucoup sur un programme différent, qui est l'accession à la propriété.
Voilà. Donc ça fait sur Narbonne 4 bailleurs sociaux différents.
Alors il y a les 4 bailleurs historiques, et ensuite il y a un certain nombre d'autres bailleurs sociaux qui viennent de territoires proches, de Perpignan, de Montpellier, ou qui se sont installés sur Narbonne, avec lesquels on travaille également.
Donc ça fait une grande diversité finalement.
Il n'y en a pas énormément, il y en a une dizaine disons, mais on travaille effectivement essentiellement avec les 4 bailleurs historiques que je viens de nommer.
Alors justement, vous avez évoqué, Isabelle Herbe, la transition énergétique, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, ne plus gaspiller, ne plus polluer aussi. Alors ça, c'est un aspect qui s'applique notamment dans votre secteur au logement.
Oui, on a un gros programme de rénovation énergétique des bâtiments. D'abord, effectivement, par l'impact environnemental que ça peut avoir sur notre planète. Et puis, bien sûr, pour réduire la facture énergétique des locataires.
Mais alors, concrètement, on va essayer de trouver des arguments qui parlent à l'esprit des auditeurs. Oui, une question, Michel.
Sur ce registre, hein, j'habite pas très loin d'un petit parc à HLM en cœur de ville, hein, dans le quartier de Bourg, là, près du parking, où justement il y a des travaux de rénovation qui sont engagés et qui visent à cette politique-là, puisqu'il s'agit de remplacer les fenêtres, de mettre des vitrages isolantes, etc. Et à ce sujet, entre parenthèses, en fait, Isabelle, une question. On est en plein cœur de la ville de Narbonne, qui est classée, hein, centre-ville classée, ou art et histoire, etc. Or, depuis au moins combien ? Presque un an, je vois fleurir sur les façades de ces immeubles des paraboles pratiquement tous les jours. Alors je me dis, voyons voir, on est en centre-ville. Ouais, cette ville est classée. Hein. Alors, des touristes en permanence circulent dans le coin. Comment peut-on laisser faire effectivement cela ?
Bon, mais la question toute simple, est-ce que c'est interdit ? Est-ce que c'est illégal ou pas ? Non.
Non, c'est pas illégal. C'est pas la compétence en plus de l'agglomération.
Non, c'est Vodovitia qui gère ça.
Oui.
Voilà, bon, ces paraboles déplaisent à Michel, mais je suis désolé, elles risquent de te déplaire pendant un certain temps encore.
Ouais. Effectivement, on s'engage dans une politique de réhabilitation, en fait, etc. On doit tenir aussi.
Il y a une cohérence, peut-être, mais là, c'est qu'une question de cohérence. Alors, cette transition énergétique, aujourd'hui, concrètement, les logements que vous produisez, il y a les anciens qu'il faut rénover, adapter, mais ceux que vous produisez, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? Bon, ils dépensent moins d'énergie, qu'est-ce qu'ils utilisent comme énergie non polluante ou peu polluante ?
Les bailleurs sociaux aujourd'hui sont sur la réglementation RT 2012 et il y en a certains qui sont même sur une réglementation qui va au-delà. Et effectivement, que ce soit en matière donc d'isolation des fenêtres, que ce soit en matière d'isolation par les murs, en matière d'isolation par la toiture, donc tout ça est regardé de manière très attentive, de façon effectivement à réduire au final ce que je vous disais, la facture énergétique des locataires, ce qui est très important. Et on peut se retrouver avec un logement qui peut permettre d'avoir une réduction de facture de 200 voire 250 euros par mois, ce qui n'est pas rien.
Ça fait quel pourcentage pour parler à l'esprit ? C'est par rapport au budget
c'est environ entre 25 et 30%.
Oui, quand même, on peut arriver
à un petit
tiers d'économie.
Tout à fait. Oui.
Et alors, cette transition énergétique, donc, alors, on vient de le voir, elle concerne grandement l'habitat
mais pas
seulement.
Exactement.
Alors, quels sont les autres aspects, Isabelle Herbe, que vous avez à gérer dans cette logique-là ?
Alors, sur le Grand Narbonne, on a fait de la question de la transition énergétique vraiment le fil rouge, j'ai envie de dire, de notre projet de territoire Grand Narbonne 2030 que nous avons présenté aux élus récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque service du Grand Narbonne et chaque délégation est chargée dans son domaine de compétences de voir de quelle manière on peut améliorer nos performances en matière d'énergie, mais pas que. Donc, par exemple, je pense au transport, avec un certain nombre de bornes de recharge électrique que nous avons mises en place. Bien sûr, le parc de véhicules de l'agglomération qui s'est doté aussi de véhicules électriques. Idem chez Domicia Habitat, je dis ça pour Michel. Donc, par exemple, dans le domaine de la mobilité. De la mobilité douce également, c'est favoriser les transports doux, c'est favoriser les pistes cyclables, par exemple, voilà.
Oui, ça c'est du côté transport, qui est un domaine important.
Exactement.
Quels sont les autres, en quelques mots, qui sont touchés ? Parce que vous dites tous les services, mais ils sont inégalement touchés.
Oui, alors ensuite on travaille beaucoup en direction de la production d'énergie renouvelable. Donc, sur tout ce qui tout ce qui est parc éolien, tout ce qui est parc photovoltaïque. Donc là, on vient en soutien auprès des particuliers, auprès des administrations qui souhaitent développer ce type d'énergie renouvelable. Et on peut les aider également.
Alors, soutien financier ou...
Soutien essentiellement technique.
Sous forme de conseils.
Oui. Alors, ce que je n'ai pas dit également, c'est qu'on a une plateforme de rénovation énergétique qui s'adresse aux particuliers. Et les particuliers qui souhaitent rénover leur habitat peuvent s'adresser à l'agglomération. Le service habitat de l'agglomération se trouve à la Maison des services au public du Grand Narbonne, dont le siège est à l'ancienne maison emploi et formation. du Grand Narbonne. Voilà. Et donc les personnes peuvent aller voir une personne que nous avons spécifiquement recrutée sur la plateforme de rénovation énergétique, et l'agglomération finance une évaluation énergétique du bâtiment et ensuite oriente les personnes vers les entreprises et les institutions qui vont pouvoir les accompagner dans cette rénovation énergétique.
Eh bien, merci Isabelle Herpf d'être venue nous éclairer sur, justement, alors un dernier mot, bien sûr, si vous le souhaitez.
Oui, parce que je voulais parler de l'habitat participatif.
Oui, un petit mot là-dessus, rapidement.
Voilà,
oui.
Un petit mot qui fait partie aussi du plan local de l'habitat. L'habitat participatif, c'est une autre façon d'habiter son logement, dans la mesure où les habitants participent en amont à l'élaboration de leur logement. Pour les personnes qui sont intéressées, ce que je voulais préciser, c'est que nous avons une réunion, une réunion publique le mercredi 26 avril à 18h30 à la médiathèque du Grand Narbonne. Pour les personnes qui seraient intéressées par l'habitat participatif, sera présente notamment l'association avec laquelle nous travaillons qui s'appelle APFAB et qui est chargée de développer l'habitat participatif en région.
Voilà, et ça sera l'occasion d'en apprendre plus et de se lancer éventuellement
dans ce genre de projet.
Merci Isabelle.
Merci à vous. Merci.
Nous parlerons la prochaine fois encore d'environnement, puisque c'est un autre vice-président, celui qui est chargé de l'environnement, Guillaume Heras, que nous aurons, qui est lui maire de la commune de Saint-Marcel. Mais nous continuerons à faire le tour de l'agglo et à essayer d'expliquer comment tout cela fonctionne. Merci encore Isabelle Herpe.
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.